Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de littérature SFFF. Je vous ai déjà présenté deux prix littéraires spécialisés dans ce genre en lisant toute la sélection pour le PLIB et le Hellfest Inferno 2018, mais j'ai décidé de changer de méthode avec cette nouvelle année qui se profile. Plutôt que de lire la sélection entière, je me concentrerai sur les lauréats et en profiterai pour lire plus de prix, car il en existe plein, que ce soit strictement fantasy, science-fiction ou un mix littéraire de l'imaginaire en tout genre. Qu'ils soient spécifiquement francophones ou plus internationaux, il y a de quoi faire, donc attendez-vous à un épisode spécial prix littéraire de SFFF en fin d'année. Pour aujourd'hui, je vous parlerai du gagnant du prix Hellfest Inferno 2019, qui est une collaboration entre la maison d'édition Brajlon et le festival de musique métal, le fameux Hellfest, qui se déroule tous les ans en juin à Clisson. Le gagnant de l'édition 2019 est le premier tome de la trilogie Blackwing, La marque du corbeau. Le tome 2 est déjà sorti en français et le tome 3 en VO. On peut espérer sa traduction est sortie pour cette année. Mais d'abord, place à la présentation de l'auteur, Ed MacDonald. Cet écrivain anglais a fait des études d'histoire ancienne et détient un diplôme d'histoire médiévale. En plus d'écrire, il est également maître de conférences à l'université. Ses loisirs s'orientent sur le maniement des armes, épée rapière ou hache d'armes. La marque du corbeau est son premier roman, et à ce jour, la trilogie est sortie au complet en VO. La marque du corbeau. Ce roman est sorti en 2017 en VO et en 2018 chez Brajlon pour la VF. Il se situe dans le genre de la dark fantasy, qui est un sous-genre de la fantasy plus sombre, où les personnages vivent dans un monde relativement plus violent, avec une psychologie assez pessimiste sur le genre humain. Et il n'est pas rare que le héros fasse partie d'un métier peu reluisant. Exit les chevaliers et bienvenue aux voleurs et mercenaires. La marque du corbeau se passe dans un monde post-apocalyptique. Une partie de la terre et du ciel a été fracturée lors d'une guerre entre les deux plus grandes puissances que sont les Sans-Nom et les Rois des Profondeurs. Pour situer l'époque, je me suis aidée de deux indices dans le roman et de Wikipédia. Les soldats utilisent un pistolet à mèche, ce qui nous indique tout de suite qu'on n'est plus dans le schéma classique de la fantasy qui se passe presque toujours au Moyen-Âge. L'invention du mécanisme du pistolet à mèche a eu lieu vers 1450-1500 et a été remplacée par la platine à silex qui commence son apparition vers 1630. Mon deuxième indice est l'utilisation d'une arquebuse bloquée à l'épaule dont l'utilisation s'est faite de 1501 à 1600. Ce qui me permet de dire qu'on se situe à l'époque de la Renaissance, mais uniquement du point de vue de la technologie militaire. Car à côté de ça, au niveau décor, on est plutôt proche fin du monde. Maintenant, passons à l'intrigue en elle-même. On se situe à Valengrad, une des sept cités-états restantes suite à la guerre entre les Sans-Nom et les Rois des Profondeurs. Cela fait 80 ans que la trêve est en cours après deux siècles de bataille. Cette trêve a été obtenue grâce à deux facteurs. L'utilisation d'un puissant artefact, le cœur du vide, qui a détruit deux cités-états et créé la désolation ainsi que fracturé une partie du ciel et de la terre, et l'utilisation de la machine fabriquée par Nal, qui a permis de générer suffisamment de puissance pour détruire un des rois. Depuis cette époque, a été bâti le cordon qui borde la désolation et permet de surveiller les mouvements potentiels de l'ennemi. Notre héros est le capitaine Rialt Galaro. Il est une aile noire, c'est-à-dire qu'il prend ses ordres directement du sans-nom Korbak, grâce à un tatouage de corbeau sur son avant-bras. Quand il n'a pas de mission donnée par son maître, il est chasseur de primes à la tête d'une petite troupe de mercenaires. Les deux acolytes qui partent toujours à l'aventure avec lui sont Nen, une femme qui aime la castagne, et Nota, qui est un navigateur. Le don de Nota permet de traverser la désolation avec le moins de mauvaises rencontres possibles et surtout, il permet de trouver son chemin. La désolation est en constante transformation à part quelques points précis. Une même destination peut prendre le double de temps, sans compter, comme je vous le disais, les mauvaises rencontres qu'on peut y faire, avec les différents types de bêtes. Ces horreurs plus ou moins dangereuses étaient des humains qui ont été transformés par les Rois des Profondeurs. Ils peuvent être autant méconnaissables que conserver un type humanoïde. Le pire d'entre eux, dans ce tome du moins, est la créature appelée Favori. Avec sa silhouette de jeune enfant, il peut aisément endormir la vigilance de sa victime. Un favori est extrêmement puissant. Il peut prendre possession de votre mental et vous obliger à vous suicider ou vous contraindre à tuer vos compagnons d'armes. Le seul moyen de le tuer est de le prendre par surprise, ce qui est compliqué. Le mieux reste de courir vite et prier que l'attention du favori soit concentrée sur quelqu'un d'autre. Bref, vous l'aurez compris, aller dans la désolation, c'est vraiment si on n'a pas le choix. Par exemple, deux adeptes en fuite qui s'y sont réfugiés et un chasseur de primes qui a besoin de leur mettre la main dessus pour toucher son fric. Voilà le début des problèmes pour notre cher Rialt. Avec sa troupe, il parvient à mettre la main sur les deux fugitifs. Enfin, pas vraiment de la façon prévue. Ils sont déjà morts et l'empreinte laissée près des corps ne les rassure pas le moins du monde. Pragmatique, Rialt fait récupérer les têtes pour obtenir son paiement et il fait lever le camp d'Ardar. C'était sans compter son maître, Korbach, qui se manifeste après 5 ans de silence pour l'envoyer de toute urgence au poste 12 sur le cordon avec un seul message « Elle doit survivre ». Arrivé sur les lieux, le capitaine Galaro se rend compte du relâchement de la garnison. Les soldats y ont installé leur famille. La salle en haut de la tour est condamnée alors que derrière la porte se trouve une partie de la machine de Nal. En cas d'attaque surprise, Rialt craint une catastrophe. Et c'est pile poil ce qui arrive. Avec Nen, il part au pas de course dans le bureau de commandement où se trouve sûrement la femme qu'il doit extraire d'ici vivante. Première surprise pour Rialt. La mystérieuse femme qu'il doit sauver n'est pas une inconnue, même si 20 ans ont passé depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Et en plus, c'est une fileuse, très puissante qui plus est. De retour à Valengrad, les ennuis continuent à s'amonceler. Pour sauver Nen, gravement blessée lors de l'attaque de la garnison, Rialt va demander de l'aide à Saravor, le rafistoleur, qui est un sorcier de chair. Sa dette en échange sera astronomique. D'autre part, Elisabeth Tanza, la femme qu'il devait récupérer, tient un discours quasiment hérétique sur l'état de la machine de Nal censée les protéger d'une éventuelle invasion des rois des profondeurs, allant jusqu'à accuser les plus hautes sphères du pouvoir de corruption. L'utilisation de la magie a pour conséquence de faire perdre la raison petit à petit à celui qui l'emploie, mais Galaro, après avoir commencé à se dire qu'Elisabeth patinait doucement dans la semoule, est bien forcé de se rendre à l'évidence. Il y a bien trop d'efforts fournis pour empêcher la fileuse de poursuivre ses recherches pour continuer à se voiler la face. Il y a bel et bien quelque chose de pourri à Valengrad. Et c'est sans compter sur les nouvelles inquiétantes parvenant de la désolation. Shavada, le plus cruel des rois des profondeurs, est en marche avec de nombreuses troupes. Elisabeth et Rialt vont-ils réussir à activer la machine de Nal ou Valengrad va-t-elle disparaître ? Pour finir, je vais revenir sur les divers systèmes de magie dans ce roman. Le plus commun dans la fantasy est le système magique venant du sorcier lui-même. Ce type de magie est détenu par les sans-nom. Leur pouvoir venant de l'intérieur est inépuisable. Et sans aide des dieux, ils tutoient l'immortalité. Le système magique à base de potions est détenu par Saravor, qui use de la chair comme ingrédient. Les gens ont peur de lui, et obtenir son aide est à un prix exorbitant. Pour finir, et c'est la base de ce roman, il y a le système magique qui est entremêlé de technologies. Les talents fabriquent du faux à partir de la lumière des lunes. Ce pouvoir les mutile et les tue à petit feu. Contraint de travailler dans les usines à faux, leur espérance de vie est extrêmement limitée. Ce faux sert à faire fonctionner la fameuse machine de Nal. Mais c'est également la base de l'énergie électrique dans toute la cité. Les bobines de faux sont comme des recharges dans lesquelles les fileurs vont puiser pour balancer leur sort. Plus de charge de faux, plus de pouvoir. Cette magie est tout autant mutilante pour les fileurs que pour les talents et finit par consumer leur raison. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par l'achat de la marque du corbeau, Pensez comme toujours au site Place des Libraires, qui est une association de librairies indépendantes. Et pour d'autres idées lectures dans le même genre, vous pouvez réécouter l'épisode Hellfest Inferno 2018 de décembre 2018, où je vous présente pour les deux derniers romans Sœur Écarlate de Mark Lawrence, qui est de la fantasy post-apocalyptique, et Le Sang du Dragon d'Anthony Ryan, qui est de la fantasy à l'ère industrielle avec bateaux à vapeur et armoplasma. Et pour ce qui est de la fantasy francophone, je vous ai présenté en novembre 2018 L'Empire du Léopard d'Emmanuel Chastelière, qui est de la gunpowder fantasy en pays aztèque, ce qui nous change du cadre européen. Et un tome compagnon, La Piste des Cendres, va bientôt sortir le 20 février. Je vous retrouve le mois prochain. D'ici là, bonne lecture. Salut !